Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau Jeudi de l'Ordre.
Merci à vous de nous accueillir. Moi, je précise que donc, j'interviens aujourd'hui. En fait, c'est nous qui intervenons. Et c'est très important pour moi qu'on soit à deux, parce qu'on est un espace collectif et justement, on n'est pas du tout un lieu uniquement porté par des médecins. Donc, moi, je suis médecin généraliste. Je m'appelle Ségolène Ernst. Je travaille deux jours par semaine au Château en Santé, qu'on va vous décrire un petit peu aujourd'hui. Et le reste du temps, je travaille deux jours par semaine dans une association qui s'occupe des jeunes, qui s'appelle Image Santé. Et je laisse la parole à mon collègue pour se présenter.
Bonjour, je suis Apoatchikus, je suis médiateur en santé, interprète et accueillant. Je fais interprétariat en kurde, en turc, pendant consultation médicale et non médicale. Et tout à l'heure, je vous explique un peu qu'est-ce qu'on fait au château, médiation en santé. J'essaie d'expliquer un peu mon métier. Là, maintenant, je laisse parole à mon collègue Ségolène, après je reviens.
Alors déjà, juste pour vous expliquer un petit peu pourquoi on est là, en fait, c'est le Conseil de l'Ordre qui nous a contactés pour nous proposer de partager un petit peu notre expérience autour de ce projet qui s'appelle le Château en Santé. Donc le but aujourd'hui, c'est absolument pas d'amener un savoir expert sur une quelconque thématique, c'est plutôt vraiment de vous raconter un petit peu ce parcours et d'où ça a émergé ce projet, qu'est-ce qu'on y fait aujourd'hui. Et vous verrez que ça a beaucoup à voir avec tous les enjeux sociaux qu'on peut rencontrer en médecine générale. Donc l'idée, c'est aussi de vous partager un peu l'expérience qu'on a après 4 ans d'ouverture sur ces questions d'enjeux sociaux en médecine générale. Donc moi, en fait, pendant mes études de médecine, j'ai été parfois assez démunie, en fait, parce que je me suis retrouvée souvent face à des patients que j'avais appris à traiter avec des médicaments. Par exemple, des patients avec une grosse dépression, j'ai un petit peu appris à les traiter avec un médicament, mais je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres choses en fait, qui impactaient sur leur santé et que souvent, moi, la seule solution que je pouvais avoir, c'était de leur donner un traitement, alors que souvent, la dépression, par exemple, pouvait être liée à des problématiques bien souvent d'ordre social. Et du coup, je me suis intéressée à ce sujet-là, à l'impact du social sur l'état de santé et à comment, au niveau du système de santé, on pouvait intervenir sur ces questions-là. Du coup, au moment de ma thèse, en fait, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai fait une thèse où j'ai évalué les connaissances et les représentations des internes en médecine générale sur la question des inégalités sociales de santé et de l'accès aux soins. Et en fait, le terme même d'inégalité sociale de santé, je l'ai entendu pour la première fois et compris en faisant les recherches autour de ma thèse. J'ai compris en fait à quel point, selon le niveau social qu'on avait, on pouvait plus ou moins avoir une espérance de vie qui pouvait avoir des écarts parfois de 10 ans. Et surtout, j'ai compris que ces écarts de vie étaient plurifactoriels. En gros, l'inégalité sociale de santé, ça veut dire qu'il existe un gradient continu au sein de la société qui stratifie l'état de santé de la population selon un gradient social. Notre état de santé, il va dépendre de notre richesse, de notre diplôme, de notre lieu de vie, de notre genre, de notre profession. Et c'est pas l'état de santé, il n'est pas polarisé, si vous voulez, entre y a des riches d'un côté qui sont en bonne santé et des pauvres qui sont en mauvaise santé. Là, par exemple, ce schéma, il montre que selon notre revenu, on peut avoir des différences d'espérance de vie. Par exemple, pour les hommes, quand on est au RSA, on a une espérance de vie de 71 ans, alors que quand on gagne plus de 5500 euros, on a une espérance de vie de 84 ans. Et on voit que même quand on a un niveau de vie un peu plus élevé, autour de 2500, 3000 euros par mois, on a une espérance de vie qui est inférieure à des personnes qui sont plus élevées. Donc il n'y a pas les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Et le fait de complexifier un peu ce sujet, c'est très important pour comprendre les causes et du coup pouvoir agir dessus. Un autre exemple, par exemple, en fonction des droits, en fait, on se rend compte que les bénéficiaires de la CMU, ils ont des revenus, quand ils sont seuls, inférieurs à 750 euros par mois. Et en fait, ils ont un taux de mortalité qui est bien supérieur à la population générale. On dit aussi que les personnes qui sont bénéficiaires de la CMU sont victimes de la double peine parce qu'ils ont à la fois une espérance de vie inférieure, mais même pendant leur vie, ils ont une qualité de vie qui est inférieure. Donc, pour la plupart, en fait, ils ont déjà des morbidités dès la retraite. Ils ont déjà des pathologies parfois très invalidantes que n'ont pas des professions, des personnes qui gagneraient mieux leur vie. Face à ce besoin de comprendre un petit peu mieux les inégalités sociales de santé pour voir comment agir dessus, il y a le concept de déterminants sociaux de la santé qui nous a paru super intéressant, qui a émergé depuis les années 70. Et le but de l'étude des déterminants sociaux de la santé, c'est d'essayer de mieux comprendre comment et pourquoi il existe une telle différenciation sociale des problèmes de santé et d'envisager les origines de ce phénomène et les mécanismes qui le rendent possible. En fait, il faut des modèles qui intègrent la santé des individus dans leur environnement social. Et vous verrez pourquoi c'est très important par rapport à nous, notre projet, la question de l'environnement social. Et parce que cet environnement social, il surdétermine et influence la genèse des pathologies. Et c'est pour ça aussi que quand on va penser des actions de santé, eh ben c'est très important qu'on pense la cause de ces pathologies et qu'on arrive un peu à sortir de l'idéologie un peu plus biomédicale qu'il a existé jusqu'à très récemment. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ça qu'on apprend encore à l'école, même si ça évolue un petit peu. Ben, on apprend beaucoup le nom des maladies, on apprend un petit peu qu'il y a des facteurs de risque, si on consomme beaucoup d'alcool ou qu'on fume, eh ben, en fait, ça va être moins bon pour la santé. Et on apprend à identifier des symptômes qui vont rentrer dans des maladies et à traiter les gens. Mais on n'apprend pas beaucoup à voir la personne de manière très globale d'un point de vue médico-psychosocial. Typiquement, moi, je n'ai pas appris, par exemple, pendant mes études, l'importance que ça pouvait avoir de recueillir des informations dans les antécédents des patients autres que purement médicales, c'est-à-dire des informations vraiment sur quel est votre niveau de mutuelle, est-ce que votre mutuelle vous rembourse bien, est-ce qu'en ce moment elle est à jour, comment vous vous sentez dans votre travail. Toutes ces choses-là, ils ont un impact sur la santé qui est autant, voire plus élevé que est-ce que vous consommez de l'alcool ou est-ce que vous avez un diabète, par exemple. Donc, à partir de ces schémas, là, on voit, c'est un des modèles, en fait, de ce qui a été modélisé dans les déterminants de santé. On voit en rouge au milieu, c'est la santé. Et en fait, au-dessus, c'est tout ce qui va déterminer la santé. Alors, il y a plusieurs modèles qui existent. Moi, j'aime un peu plus celui-ci, qui est peut-être un peu plus compliqué. Mais en gros, on voit qu'il y a des déterminants très macroscopiques de la santé, qui va être le niveau de vie du pays où on va, où on vit, la gouvernante, la politique macroéconomique, la gouvernance. Il y a quelque chose d'un peu moins macro qui va être la classe sociale de la personne, le sexe, l'origine ethnique, l'éducation, l'emploi, les revenus. Et puis, dans les déterminants beaucoup plus microscopiques de la santé, il y a ce qui nous arrive dans notre vie, nos conditions matérielles de vie, les traumatismes qui peuvent nous arriver à nous personnellement. Et il y a les comportements qu'on va avoir dans la vie. Est-ce qu'on va avoir une vie très festive, beaucoup boire d'alcool ou beaucoup fumer? Mais on se rend compte quand même que ce genre de déterminant, en fait, c'est très secondaire par rapport à tous les autres déterminants qui existent. Et l'idée, du coup, nous, quand on s'est réunis en collectif en se disant comment on peut penser un lieu qui intègre un petit peu plus la question des déterminants de santé, eh ben, en fait, on s'est basé sur ces concepts-là. On voit aussi dans ce schéma que le système de santé que vous voyez en bas à droite, en fait, il a, en tout cas à l'heure actuelle, une influence très faible. Aujourd'hui, on peut mettre en place plein de choses au niveau du système de santé, de la manière dont les gens vont être accueillis. En fait, ça va avoir un impact qui est évalué qu'à 5 à 15% sur la lutte contre les inégalités sociales de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut agir au-dessus du système de santé. Il faut agir sur, justement, les inégalités de base, en fait, sur les conditions dans lesquelles les gens vivent, les conditions dans lesquelles ils travaillent, des choses comme ça. Néanmoins, moi, je pense, et c'est peut-être un peu optimiste, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que la place de ce système de santé, elle peut être bien supérieure. Elle peut notamment, justement, favoriser la lutte contre les inégalités sociales de santé en considérant un peu plus les déterminants de santé dans la manière dont on va soigner les gens. Donc, de cette notion de déterminants de santé émergent d'autres notions. Il y a la notion de santé globale. C'est ce que je vous expliquais un peu tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. En gros, l'OMS définit la santé en 1978 comme un état complet de bien-être physique, mental, social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et donc, c'est là, en fait, où c'est, entre guillemets, officialisé qu'il y a l'organisation sociale et la vie sociale de l'individu va avoir un impact sur son état de santé. Lors de cette même conférence, c'est l'une des premières fois où émerge la notion de santé communautaire, qui est valorisée comme un des moyens de faire de la santé globale. Parce qu'une fois que l'OMS dit qu'il faut faire de la santé globale, ben en fait, le système de santé tel qu'il est pensé, en tout cas en France, dans notre pays, il n'est pas forcément pensé comme ça. On a pris l'habitude de découper un peu les gens, de les orienter chez le cardiologue quand ils avaient besoin d'un problème pour un problème de cœur, de les orienter chez l'assistante sociale quand il y a un problème social. Mais il n'y a pas de choses comme ça où on pense vraiment les imbrications et les effets de causalité qu'il peut y avoir entre chaque différent problème. Donc la notion de santé communautaire, on parle de santé communautaire quand les membres d'une collectivité géographique ou sociale agissent en commun à toutes les étapes sur les questions de santé. Donc ça va de l'identification des besoins au développement, à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités les plus aptes à répondre à leurs priorités. Donc il s'agit vraiment de réfléchir ensemble avec les usagers d'un lieu sur c'est quoi leurs besoins. Et en fait, alors sans faire de la santé communautaire complète, on peut être dans des dynamiques communautaires dans plein d'endroits de nos vies à partir du moment où on réfléchit ensemble à nos besoins communs et à comment on va y répondre. La santé communautaire, elle a beaucoup émergé à l'époque de l'émergence du VIH ou à l'époque des luttes pour le droit à l'IVG, où en fait c'est à des moments des patients qui sont directement concernés par une problématique, qui vont se réunir ensemble, qui vont prendre en charge leur santé ensemble et qui vont après militer pour que ce soit reconnu par la communauté scientifique. Ça, c'est ce qu'on appelle la santé communautaire et c'est de là qu'a émergé la notion de santé communautaire avec tous ces collectifs. Alors, qui dit santé communautaire ? Je vous ai mis cette petite diapositive, je ne vais pas tout relire, mais en fait, le fait d'impliquer des groupes d'usagers citoyens dans un processus où leur point de vue est pris en compte, ça va permettre de développer leur capacité d'agir aussi. Et la méthodologie en santé communautaire permet de diminuer les inégalités sociales de santé. Ça, c'est prouvé scientifiquement. On n'est pas dans des histoires politiques ou de justice sociale. On est vraiment en train de se rendre compte en fait, que le savoir expérientiel des gens, il va avoir un impact tout aussi fort, voire plus fort, que le savoir théorique que nous, on apprend en tant que médecin. Et c'est pour ça qu'en lisant tout ça, nous, on s'est dit, mais en fait, ce n'est pas possible de continuer à rester un peu dans notre communauté médico-centrée sans prendre en compte les besoins des gens qui sont pour la plupart sociales. Qu'est-ce que ça implique, la santé communautaire ? Ça implique du coup un petit chamboulement. Le développement de la santé communautaire nécessite de mettre en place de nouveaux processus d'accompagnement et bouleverse les rapports de pouvoir traditionnels. Elle exige donc un changement de comportement des professionnels et des élus qui doivent être à l'écoute, associer la population, faciliter l'expression des groupes constitués et les intégrer dans les processus de décision. Ça, j'ai trouvé ça important de vous en parler parce qu'en ce moment, c'est un peu le mot à la mode, la participation des usagers. Et en fait, quand on dit participation des usagers, on ne peut pas simplement faire participer des gens et pas les écouter. Donc si on décide de les faire participer, ça veut dire qu'on leur donne un pouvoir d'agir et que du coup, on est prêt aussi à changer nos pratiques pour vraiment prendre en compte ce qu'ils ont à nous dire. Donc nous, en fait, au niveau du Château en Santé, en fait, c'est dès 2011 qu'on s'est réunis en petit collectif de soignants. On était surtout des soignants au début et puis il y a d'autres gens qui n'étaient pas soignants qui nous ont rejoints et qui nous ont beaucoup aidés. On s'est demandé comment faire pour mettre en pratique tout ce qu'on avait appris là, on a beaucoup échangé sur tous ces concepts. Et du coup, on a découvert qu'il y avait déjà des centres de santé communautaires qui existaient, donc qui faisaient, dans la mesure du possible, de la santé communautaire, notamment au Québec, notamment au Canada, en Belgique. Et on a vu aussi qu'en France, il y avait un centre de santé qui s'appelle la Case de Santé à Toulouse, qui faisait aussi de la santé communautaire. Du coup, on a essayé d'aller les rencontrer, de comprendre un peu c'était quoi leurs priorités. Et en fait, nous, bénévolement, on s'est tous réunis toutes les semaines pour essayer d'aller toquer à toutes les institutions, notamment à l'Agence régionale de santé, au conseil régional, trouver un lieu, essayer de comprendre où est-ce que c'était intéressant de s'installer aussi. L'idée de la santé communautaire, c'est aussi d'intervenir dans des lieux où il y a des besoins de santé évidents. Du coup, on est allé demander aux institutions, dites-nous où est-ce qu'il y a un désert médical et où est-ce qu'il y a des besoins. Et en fait, très vite, le parc Caliste, qui est un quartier du nord des quartiers nord de Marseille, a été identifié. Il y avait un vrai désert médical, il y avait un niveau de précarité extrême.
Maintenant, place à Ségolène Ernst pour parler des enjeux sociaux en médecine générale et l'expérience du château en santé.
On a fait ce qu'on appelle un diagnostic de santé communautaire, c'est-à-dire qu'on est allé toquer dans des lieux qui existaient déjà. L'idée, ce n'est pas de mobiliser des gens qui sont déjà débordés par leurs enfants, leurs difficultés, mais plutôt on a été dans les centres sociaux, rencontrer des groupes de femmes, d'autosupport de femmes, et leur demander c'est quoi vos besoins et qu'est-ce que vous attendez d'un lieu comme le nôtre si jamais on vient. Et c'est en se basant un peu sur ça qu'on a pu monter et ouvrir le château en santé en 2018. L'idée, du coup, c'était de correspondre un peu aux critères de santé communautaire, même si aujourd'hui, on ne peut pas vraiment revendiquer de faire de la santé communautaire parce que, par exemple, on n'est pas du tout au quotidien en train de prendre des décisions avec les gens du territoire. On est au quotidien en train d'être des médecins généralistes, on est les médecins traitants, mais par contre, on est sur un territoire bien donné. Et l'idée, c'est globalement d'essayer de ressentir le plus possible les besoins de la communauté de ce territoire-là. On parle de communautaire, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, à partir du moment où c'est des gens qui se reconnaissent en termes d'origine sociale, par exemple, ou en termes de territoire, de là où ils vivent. Et du coup, il ne faut pas faire l'amalgame entre le communautarisme, ça n'a absolument rien à voir, on n'est pas en train de se refermer sur nous, on est en train justement d'essayer d'aller les uns vers les autres pour voir quels sont les besoins de tout le monde et comment répondre le mieux à ces besoins-là. Je vais laisser parler mon collègue Apo, parce que du coup, le château a ouvert en 2018 et il va vous présenter un peu aujourd'hui le château, qu'est-ce que c'est. Je présente juste la photo. Donc ça, c'est la vieille bastide qui était désaffectée au centre d'une cité, donc de la cité Caliste. Donc le château, il est entouré de barres d'immeubles et il est au sommet d'une butte. Et c'est une vieille bastide qui a été construite au début des années 1800, qui s'appelle la Villa Valcorm. Et qui a pu être acheté par la ville, qui nous met en location, qui nous fait un bail. Et nous, en fait, on a eu les financements pour la retaper entièrement et pour la transformer en un lieu de santé pouvant accueillir des publics. On a essayé de garder un aspect maison. Et en fait, l'intérieur, on a beaucoup de chance parce que l'intérieur, il y a des peintures murales qu'on a pu garder absolument magnifiques. Et les gens du château ont l'habitude, les usagers nous disent souvent que le fait même d'être accueillis dans un lieu aussi beau, ils sont déjà un petit peu guéris, en fait, d'être dans un lieu joli.
Oui, c'est magnifique.
Oui. Et le Château en Santé, c'est un centre de santé associatif. Et on est situé, comme Ségolène, elle a dit qu'on est situé au 15e Marseille à Caliste. Et on a en ce moment 6 salariés. Tout le monde est salarié. Il y a 6 médecins et 2 infirmières, une conseillère conjugale familiale, une assistante sociale, 2 médiateurs en santé et interprètes, et l'autre médiateur en santé, elle fait interprétariat comorien, et 2 orthophonistes, un gestionnaire et une agence d'entretien. Et on a une équipe pluriprofessionnelle premier recours, et on fait consultation sur rendez-vous et sans rendez-vous, notamment Et sans rendez-vous, c'est avec les médecins et toutes les autres professionnels. Et moi, assistant social, orthophoniste, ils font des consultations sur rendez-vous. Et en termes d'organisation, on fait beaucoup d'échanges entre les professionnels. On fait pas mal co-consultations et on fait pas mal consultations longues aussi. Et à Château en Santé, on fait des ateliers collectifs, on fait ateliers de jardinage. Et on a un groupe de femmes qui marchent tous les mercredis matin. Autour du château, il y a des collines. Elles se trouvent devant le château. Après, ils vont aller marcher vers la colline. Et c'est une promenade pendant 2 heures et tous les mardis matin, sans inscription, elles viennent, elles se trouvent. L'idée, un peu marcher, en même temps faire un échange entre elles et un peu mobiliser aussi. Cet atelier, depuis 3 ans, il existe, et non, 4 ans peut-être. 4 ans, et vraiment, ça fait une bonne réseau, et beaucoup de participants qui viennent, qui changent pas mal autour de cet atelier. Et ouais, après, on fait pas mal différents ateliers. On a fait un atelier de radio. Et on parle d'actualité pendant cet enregistrement de radio. On a fait Café Santé aussi. Café Santé, l'idée de Café Santé, partager l'actualité avec les usagers. Et du coup, on se trouvait avec les habitants. On parlait des sujets actuels, vaccination ou d'autres sujets, ce qu'ils pensent les usagers. Et du coup, on parle ça aussi. Et on a différents ateliers aussi. On a une groupe préparation d'accouchement aussi. Préparation de... Oui, accouchement. Et fur et à mesure, on change les ateliers. C'est à la demande des habitants, on essaye de créer des ateliers, on fait des ateliers et ça change souvent en fait. Du coup, j'ai parlé un peu, j'ai dit que je suis médiateur en santé, j'aimerais bien un peu expliquer mon métier, c'est quoi exactement. C'est vrai que pour moi, c'est difficile de définir médiateur en santé, c'est quoi exactement. Et j'ai essayé un peu dessiner, j'ai essayé un peu expliquer avec le dessin qu'est-ce que c'est exactement médiation en santé. Et sur le schéma, vous voyez qu'il y a un usager, il est en dehors de notre système de santé prévention. En fait, il est dehors parce qu'on voit plusieurs barrières. Ça peut être une barrière de langue, numérique, géographique, économique ou différentes barrières en fait. Notre but en tant que médiateur en santé, mettre cet usager dans notre système de santé en franchissant ces barrières, une ou plusieurs barrières. C'est la première chose qu'on détecte, c'est quoi le problème, pourquoi il n'est pas dans notre système de santé. Après, on détecte le problème, on essaie d'enlever les barrières, après on essaie de mettre dans notre système de santé prévention. Et du coup, quand on a franchi les barrières, quand il est dans notre système de santé, c'est pas fini en fait, parce que notre système de santé, elle est très bien, mais il est super complexe aussi. Et du coup, les usagers, ils se perdent facilement dans notre système de santé et ils renoncent aux soins parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, ils ne voient pas au bout de leur parcours de soins. Et du coup, notre idée de l'accompagner chaque étape, d'assurer ce parcours de soins, de continuer son soin. Et pour nous, c'est très important. Je fais pas mal d'accompagnement à l'hôpital ou différents lieux pour assurer toutes les consultations, pour assurer toutes les parcours de soins en fait. Pour nous, c'est très important. Vraiment, ces barrières, notamment langue, ça pose beaucoup de problèmes pour continuité du soin en fait. Mais ce n'est pas fini toujours. Quand on parle de santé, et notamment on parle un peu social aussi. Notamment, j'ai donné un exemple ici. Et dans notre centre de santé, il y a une dame, elle est venue, elle est une victime de violence. Et du coup, j'accompagne SOS Femmes. Après, j'accompagne à la police, à l'avocate, à la CAF. Pour toutes ces démarches, je les accompagne. En fait, peut-être ça ne touche pas direct la santé, mais ça touche indirect un peu. Et du coup, mon but, c'est d'accompagner et pas perdre, elle ne perd pas pendant toutes ces démarches, en fait. Aujourd'hui, elle est séparée avec son mari, elle vit avec ses enfants, elle est plutôt bien, elle est plutôt une situation rassurante aussi. Je vais vous donner un petit cas clinique pour un peu concrétiser mon métier. Et au château, qu'est-ce qu'on fait aussi? En fait, c'est vraiment, c'est ça qui se parle un peu plus pour nous. Et une fois, je me suis trouvé avec notre médecin pour faire une consultation. Madame, elle ne parle pas du tout français. Du coup, je suis entré dans la consultation. Premier mot qu'elle a dit, je vais mourir, je ne suis pas bien du tout. Et du coup, avec médecin, on essayait de comprendre. Médecin, il a posé plusieurs questions. Et du coup, on a fait notre consultation. Après, on a compris qu'elle n'est pas, une voie ouverte aussi. Donc, elle n'était pas dans le système de santé et prévention. Et du coup, le lendemain, je lui ai donné un rendez-vous pour préparer son dossier, pour occuper toutes ses démarches. Et le lendemain, quand on s'est trouvé, j'ai eu du temps pour parler avec elle. Et du coup, j'ai un peu écouté qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. J'ai appris qu'elle travaillait dans un resto pendant la nuit. Et du coup, elle avait un enfant de 4 ans qui n'était pas scolarisé. Et du coup, pendant la nuit, elle bossait. Derrière le resto, il y avait un petit studio. Son fils, il dormait. Mais quand elle rentrait le matin à la maison, elle était obligée d'occuper avec son fils. Elle ne se posait jamais, en fait. Et du coup, pour ce temps, je fais pas mal d'accompagnement pour aller à l'école, pour inscription à l'école. Et son enfant, il a commencé à l'école, il a commencé à manger à la cantine. Là, madame, maintenant, elle se pose un peu quand son fils, il est à l'école. Et du coup, on a continué à faire des consultations médicales, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose? Tous les examens, ça montrait que c'est plutôt rassurant. Elle est un peu moins fatiguée qu'avant. Elle est toujours fatiguée parce qu'elle a une travail dur. Mais là, elle se sent beaucoup mieux, en fait. Et cette cas clinique, ça nous montre bien comment on travaille au château en équipe, comment on fait échange avec les autres professionnels et comment on avance. On ne fait pas de miracle peut-être, mais ça nous montre bien où on est situé. On est situé dans un quartier vraiment abandonné. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une grande précarité, une grande vulnérabilité. Et du coup, on les accompagne, on fait des choses, ce qu'on peut faire en fait. Voilà, c'est un peu globalement comme ça. Merci. Et je le passe encore second.
Ah non, je n'ai pas besoin. Non. Merci, Apo. C'était pour compléter un peu ce que disait Apo. Bah, cette dame, par exemple, en fait, elle est venue, elle se sentait très mal, elle avait très très mal à la tête. Et en fait, on n'aurait jamais compris dans le cadre d'une consulte qu'en fait, elle ne dormait jamais. Et c'est à travers le temps qu'elle a passé avec Apo, mais en dehors d'un temps médical, qu'on a compris ça. Et, et en fait, cette dame, elle a arrêté d'avoir mal à la tête et d'être épuisée le jour où on l'a aidée à scolariser son fils. Juste dans une consulte médicale, en fait, on lui aurait donné du doliprane qui n'aurait pas marché, puis du tramadol qui n'aurait probablement pas marché non plus. Elle aurait eu pas mal d'IRM cérébraux. Elle aurait eu des consultations migraines. Enfin, juste, en fait, c'est typiquement ce genre d'exemple-là qui montre qu'en fait, on a besoin d'être tous là et qu'on a besoin d'être tous au même niveau. Pour revenir sur les groupes de femmes, par exemple, on a constaté aussi que le fait que les femmes viennent tous les mardis dans ce groupe d'autosupport qu'elles ont souhaité, elles, en non-mixité, eh ben, en fait, elles échangent sur leurs inquiétudes, sur parfois des violences qu'elles peuvent subir, sur tout ça. Et on a constaté qu'elles venaient moins en consultation. Le fait de venir tous les mardis marcher avec soit notre collègue infirmière, soit notre collègue conseillère conjugale et familiale, qui anime un peu le groupe, eh ben, en fait, ça baisse le taux de consultation médicale et du coup, ça baisse le taux de prescription médicale. Du coup, ça baisse la iatrogénie aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait, qui impactent à partir du moment où on considère un peu plus le social et les déterminants de santé et qu'on sort un peu du médico-centrisme. Pour continuer à vous parler un peu du château, là, c'est typiquement une genre de réunion du château. On est dans un système de gouvernance partagée parce que ça nous paraissait, à partir du moment où on est sur de la santé communautaire et qu'on décide du coup de valoriser autant les savoirs expérientiels que les savoirs théoriques et qu'on donne la place à tout le monde, en fait, on s'est dit que les pouvoirs, ils doivent être aussi partagés. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la question de la santé communautaire. Ça ne sert à rien de demander leur avis aux gens si on ne les écoute pas et si du coup, ils n'ont pas un pouvoir aussi dans ce qu'ils proposent. Du coup, on a différents niveaux de prise de décision. Ça peut être soit dans des sous-groupes de travail, soit entre équipes salariées, soit avec les membres de notre CA. Le CA, donc l'association, il est collégial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, de trésorier, de choses comme ça. C'est 8 membres qui sont tous au même niveau et qui se partagent certaines missions. Ils ont tous le même niveau, même au niveau juridique, le même niveau de responsabilité les uns les autres. Les décisions sont prises au consensus. Alors, quelquefois, la question de la gouvernance partagée ou de l'autogestion, on passe un peu pour des anarchistes, mais en fait, c'est extrêmement rigoureux, justement, pour que ça marche dans un collectif à 17. On a énormément d'outils d'aide à la décision. On a des systèmes de couleurs, on a des systèmes... Là, je vous ai mis une photo où il y a plein de tableaux, de post-it, où en fait, on a appris petit à petit à prendre des décisions au consensus, ce qui a fait que, par exemple, au moment de la crise du Covid, on a été hyper efficace parce qu'on avait tous les outils qui étaient en œuvre et que tout le monde est partie prenante au même niveau. On a quasiment les mêmes salaires. Il y a un écart de salaire maximum de 300 euros entre le plus haut et le plus bas salaire au château, de 400 euros, pardon. Ce qui fait qu'en fait, le château, c'est un lieu qui est à tout le monde. Tout le monde se sent responsable. Et du coup, bah, le jour de la crise Covid, eh ben, tout le monde était sur le pont. Les orthophonistes, on a arrêté les consultes d'orthophonistes, mais elles étaient à l'accueil. Les travailleurs sociaux, ils étaient aussi à l'accueil. Ils faisaient de l'explication, ils accueillaient des gens pour du vaccin. Enfin, chacun s'est mis là où il pouvait être pour que le lieu fonctionne, parce que c'était notre outil de travail à tous. Et on n'est pas salariés par quelqu'un qui nous dit ce qu'on doit faire. Alors concrètement, parce que l'exemple du château, c'est un exemple qui est un peu particulier, et j'imagine bien qu'il ne peut pas y avoir des centres de santé comme ça partout, et puis je pense quand même, en fait, avec le temps, que ça pourrait être nécessaire qu'il y en ait de partout. Je ne pense pas qu'on s'adresse qu'aux gens extrêmement précaires. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas pour l'instant, et du coup, je me disais que ça pouvait être quand même intéressant de parler un peu de notre expérience depuis 4 ans, qui est beaucoup orientée vers la médecine sociale. Qu'est-ce qu'on en a tiré et qu'est-ce qu'on peut faire aussi, nous, au niveau individuel, en consultation, qu'on soit au Château aux Santé ou dans un cabinet libéral tout seul. Là, je vous ai mis une photo, en fait, d'une recommandation du Collège de la médecine générale qui dit pourquoi et comment enregistrer la situation sociale d'un patient adulte en médecine générale. Il parle notamment du score EPIS et justement, il propose, au lieu de relever que les antécédents médicaux, de relever des choses aussi importantes que quel est l'état de vos droits. Par exemple, quand est-ce que se termine votre CMU? On dit maintenant CSS, pardon. Est-ce que vous savez lire? Alors, les gens peuvent mal prendre la question, mais nous, on a pris l'habitude de la formuler, par exemple, en disant est-ce que vous avez besoin d'aide pour comprendre ce que j'ai écrit sur cette ordonnance. C'est incroyable le nombre de gens. Nous, chez nous, on évalue à 25% le nombre de gens qui ne savent pas lire. Et même chez des personnes qui ont grandi et ont été scolarisées en France, on évalue à 14% le taux d'illettrisme. Donc, si on n'a pas ça en tête quand on reçoit des patients, ça veut dire qu'en gros, on pourra faire toutes les ordonnances du monde. S'ils ne peuvent pas relire ce qu'on a écrit, ils ne comprendront pas. Donc, il peut y avoir des outils assez faciles à mettre en œuvre, de type, nous, on fait des petits dessins, on a des petits autocollants, matin, midi, soir, des choses comme ça. Et il y a aussi l'importance d'avoir un petit peu de connaissances sur le social, tout ce qui entoure le soin somatique. Souvent, on nous a renvoyé que en fait, les médecins, ils n'ont pas le temps, ce que je suis complètement d'accord, et ce n'est pas des assistants sociaux, mais le fait juste de connaître, par exemple, c'est quoi à peu près les droits auxquels ont droit les gens, et de connaître le réseau qui nous entoure, en fait, ça fait gagner beaucoup de temps et ça fait diminuer le sentiment d'impuissance. Parce que je crois vraiment qu'il y a énormément de médecins généralistes qui se sentent vraiment impuissants et qui ont comme seul outil l'ordonnance, alors qu'ils savent pertinemment que le problème des gens, c'est pas ça, en fait. Voire on va être iatrogénique, mais on donne un médicament parce qu'on sait pas quoi donner d'autre. Donc là, je vous ai juste mis très rapidement, parce que c'est un schéma qui m'a beaucoup parlé, quand les personnes sont dans des situations précaires, qui ont des faibles revenus, en gros, il y a soit ils ont un titre de séjour, ils ont le droit d'être sur le territoire. Ça peut être, par exemple, même des demandeurs d'asile, mais qui sont en cours de demande d'asile. Ils relèvent de l'ex-CMU qui s'appelle la CSS maintenant. Et du coup, ils n'ont pas d'avance de frais à faire. Ils n'ont pas besoin de payer. S'ils sont en situation irrégulière, qu'ils n'ont pas de titre de séjour sur le territoire, ils relèvent de l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, ils n'ont pas de carte vitale. Ils ont une petite carte qui n'est pas une carte vitale. Et ils ont le droit aussi au tiers payant intégral. Ils ne sont pas censés faire l'avance des frais. Ces deux types de sécurité sociale doivent être renouvelés tous les ans. Et par exemple, c'est minimum 2 mois, voire 3 mois pour le renouveler. Donc par exemple, quand on voit qu'un patient, sa carte, son attestation, elle se termine dans 2-3 mois, Et ben, en fait, nous, on oriente quasi systématiquement vers la sécurité sociale. Alors nous, on a en plus une convention avec la Sécu qui nous permet d'aller déposer directement les dossiers parce qu'on a une assistante sociale qui nous aide là-dedans. Mais c'est un dispositif particulier qu'on ne peut pas avoir partout. Mais par contre, juste de dire aux patients, attention, vos droits se terminent, il faut vous y prendre 3 mois avant. Ben moi, je ne sais pas, on ne me l'avait pas dit. Quoi. Pendant mes 10 ans d'études, on ne me l'a pas dit. Je l'ai appris à mes dépens parce que je me suis retrouvée avec des gens avec des pathologies graves qui n'avaient plus de Sécu. Moi, en fait, je peux faire un acte gratuit. Il y a beaucoup de médecins qui font des actes gratuits, mais ce n'est pas non plus rendre service aux gens. Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont fait l'acte gratuit, ben, ils ressortent les gens avec une ordonnance pour une prise de sang, pour des médicaments. Ils n'ont pas les moyens d'aller se les acheter. Donc ça, c'est un truc tout bête de demander aux gens quand est-ce que se finissent leurs droits et de les inciter. Si les gens n'ont plus de droits, il y a plein de dispositifs qui existent. Alors, je suis désolée pour des gens qui ne seraient pas de Marseille, mais quand même, c'est dans la majeure partie des villes. Mais c'est un petit panel rapide des lieux en fait, où on va pouvoir s'occuper de gens qui n'auraient plus de droits et plus généralement des lieux du social à Marseille et dans les environs. Il y a la PASS, qui est une permanence d'accès aux soins de santé. Ça, c'est depuis la loi contre les exclusions de 1998. Il y a des services PASS normalement dans tous les hôpitaux de taille moyenne ou grande. À Marseille, il y en a une à la Conception, il y en a une à l'hôpital Édouard-Toulouse, il y en a une à l'hôpital Nord. Et en fait, dans ces PASS, les gens qui n'ont aucun droit doivent pouvoir bénéficier d'une délivrance de médicaments, de consultations médicales, de prise de sang. Donc si, par exemple, vous avez des gens qui sont en rupture de droit dans votre consultation de médecine générale ou même dans votre consultation de médecin spécialisé, vous pouvez tout à fait leur conseiller d'aller à la PASS. Et vous pouvez leur faire même une ordonnance et leur dire « Je sais que vous n'aurez pas les moyens de payer la Sécu, les médicaments, mais allez à la PASS, on vous délivrera ces médicaments. C'est un droit, c'est légal et l'hôpital public est financé pour ça. » Dans ces PASS, il y a aussi des assistantes sociales qui vont aider les gens à renouveler rapidement leurs droits. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, je dis qu'il ne faut pas hésiter. Malheureusement, on est sous-dotés, les PASS sont un peu débordés. Mais ça ne mange pas de pain de savoir que ça existe. Parce que, par exemple, nous, au château, on a le dépliant. Maintenant, on a fabriqué des liens chouettes avec les médecins. Et quand on a une galère, les patients, ils sont reçus extrêmement rapidement dans ces lieux-là. Maintenant, il y a une PASS de ville qui permet à des gens qui n'ont pas de sécu d'aller chez des médecins généralistes en ville qui ont une convention. Et du coup, tant qu'ils n'ont pas de sécu, c'est l'association PASS de ville qui paye la consultation et qui paye dans des laboratoires conventionnés, dans des pharmacies conventionnées, les médicaments. Et le jour où la sécu est ouverte, bah, les médecins sont payés par la sécu. Donc, c'est des médecins qui acceptent d'être payés quelquefois un peu plus tard, ou des labos ou des pharmacies qui vont être payés un peu plus tard par une association le temps que les droits des gens ouvrent. Ce qui est super là-dedans, c'est que les gens ils commencent un vrai suivi médecin traitant dès le début et ils n'attendent pas d'avoir des droits ouverts pour ça. Et il y a plein d'autres dispositifs d'accès gratuit à des soins. Et ça, il y a pas mal de gens qui ne le savent pas. Mais par exemple, si vous avez des patients qui ont du mal à accéder à un suivi gynéco, bah, il y a les centres de planif et d'éducation familiale où il y a des consultes gynéco. Même avec ou sans mutuelle, avec ou sans sécu, ça peut être gratuit. Quand les gens, en fait, ils accueillent tout le monde. Il y a accès à des médicaments, il y a accès à des échographies, notamment pour des suivis de grossesse. À la PMI, il y a le suivi des enfants, c'est légal et c'est obligatoire aussi. Avec ou sans droit, ils peuvent être suivis, ils peuvent être vaccinés gratuitement. Il y a tous les dispositifs de lutte contre les maladies infectieuses, notamment le CLAT, le CEGID, donc le CLAT qui est lutte contre la tuberculose, le CEGID qui fait des dépistages. Et il y a aussi quelque chose qui est peu connu, mais les CMP, les centres médico-psychologiques, quand vous avez des patients avec des pathologies psychiatriques ou avec une souffrance psy qui n'ont plus de sécu, dans ces lieux-là, légalement, il y a une obligation à ce qu'ils délivrent gratuitement des médicaments et qu'ils assurent un suivi. Dans tous ces lieux-là, il y a des assistantes sociales. Il y a des assistantes sociales dans tous ces lieux-là. Et dans les CMP, il y a des assistantes sociales, des psychologues et des psychiatres. Donc, quelquefois, en fait, le patient, s'il relève d'un de ces lieux-là, bah, le fait de l'orienter là-bas, lui expliquer comment y aller, voire même de décrocher son téléphone pour prendre un rendez-vous s'il n'est pas bien francophone, en fait, ça y est, il est parti dans le droit commun. Il va avoir là-bas une consulte d'assistante sociale, il va renouveler ses droits. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a un moment où ça prend du temps, mais en fait, quelquefois, ce temps-là, si on le prend, la personne, elle est vite, elle retourne dans le cercle que vous a expliqué Apo. Apo, il s'occupe de patients où il faut être, enfin, aussi de gens où il faut être longtemps les accompagner, mais il y a aussi des fois où il suffit d'une petite orientation, quoi. Voilà. Et puis, si vraiment il n'y a pas de sécu, pas de place à la PASS, il y a aussi les centres d'accueil d'orientation de médecins du monde qui sont des dispensaires et qui accueillent les gens sans sécu. En vous expliquant ça, je vous précise que nous, on n'est pas, souvent les gens croient qu'on est un dispensaire, on est un lieu de soins du droit commun. On est les médecins traitants des gens sur un territoire. Mais on n'est pas un lieu qui va s'occuper des pauvres. C'est pas du tout. C'est un lieu où on est des médecins généralistes avec plein d'autres professionnels qui nous aident à faire le mieux possible notre travail. Mais on est des médecins de premier recours, quoi. Focus sur l'interprétariat en santé, juste pour dire que c'est en train de prendre de l'importance, que c'est maintenant référencé dans les métiers de l'HAS, qu'à Marseille, il y a une plateforme interprète portée par l'association Osiris, qu'on peut appeler. Qu'il y a aussi une plateforme qui s'appelle Interservices Migrants, qui est une plateforme téléphonique à Paris, où en fait, n'importe quand, on appelle et on a accès à environ toutes les langues du monde en mettant le haut-parleur pour comprendre ce que nous dit le patient. Le problème, c'est que c'est des dispositifs qui coûtent un peu d'argent. Et du coup, mais maintenant, ça commence à être de mieux en mieux financé. Par exemple, nous, on a demandé un financement à l'ARS. Je sais qu'il y a des maisons de santé pluriprofessionnelles à Marseille qui ont fait ces mêmes demandes, qui ont obtenu des financements et qui peuvent maintenant appeler n'importe quand pour avoir de l'interprétariat. Et quand on peut communiquer avec son patient, on peut le soigner. Moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut soigner quelqu'un qu'on ne comprend pas. Et juste les partenaires sociaux, dans les Bouches-du-Rhône, c'est les MDS, les Maisons des Solidarités. Normalement, quand on habite dans un endroit, on a une assistante sociale référente. Heureusement, tout le monde n'en bénéficie pas. Mais si vous habitez dans le 5e, vous pouvez à tout moment aller dans la maison départementale des solidarités du 5e arrondissement, qui est portée par le département des Bouches-du-Rhône. Et en fait, là-bas dedans, il y a plein d'assistantes sociales qui vont pouvoir vous aider pour faire valoir tous vos droits. Et il y a aussi la ville de Marseille qui produit tous les ans le guide de l'urgence sociale. Là, vous avez vraiment tout, où se soigner, où trouver des vêtements, où manger, où dormir. Nous, ça nous aide pas mal quand même, parce qu'en fait, il y a plein d'infos et ça évite de fabriquer toujours son propre répertoire. Voilà, là, il y a plein d'autres choses. Il y a le COMED, qui est un comité d'accompagnement des exilés sur leur santé. Et enfin, parce que c'est complètement national, les PTA, les plateformes territoriales d'appui, c'est des nouveaux dispositifs, enfin nouveaux depuis 4-5 ans maintenant, qui existent normalement dans la France entière et qui sont là pour venir en appui aux professionnels de santé. Et du coup, typiquement sur des problématiques sociales, si on est en galère, qu'on se sent hyper isolé et qu'on ne sait plus quoi faire avec un patient, on peut les appeler parce que eux, leur rôle, c'est justement d'animer le réseau et de toujours vous donner une solution à vos problèmes, notamment sociaux, pour la prise en charge de patients. Je vous remercie de votre attention. Je suis désolée si j'étais un petit peu longue. Et n'hésitez pas à poser des questions.
Un grand merci, Ségolène, pour cette présentation brillante. Il y a des questions qui sont arrivées durant l'intervention. Vous avez répondu à certaines questions, et notamment sur les moyens donnés aux médecins de ville, que vous êtes également, mais organisés différemment pour pouvoir trouver des relais au sein de différentes structures. Vous l'avez évoqué, je ne reviens pas dessus. Il y a des questions qui concernent les habitants, qui sont de deux types. Première question, est-ce qu'il faut être résident de la cité pour être soigné au château? Et toujours par rapport aux patients, est-ce qu'une fois qu'ils sont venus, est-ce qu'ils vous aident, je dirais spontanément, hein, c'est le sens de la question, viennent-ils spontanément proposer leur participation? Ça concerne les habitants. J'aurai encore deux champs de questions à poser après, mais je vous laisse répondre déjà à ces deux premières questions. Merci.
Apo, est-ce que tu veux revenir avec moi pour répondre aux questions? Peut-être tu peux répondre sur le territoire d'intervention.
Oui. En fait, on avait une forte augmentation de consultations médicales. Et pour nous, c'était un peu difficile d'assurer toutes les consultations. Et depuis presque 6 mois, on s'est dit qu'on reste dans notre quartier. Et du coup, c'est-à-dire Caliste, La Granière, La Solidarité et les Borélés. Et du coup, ceux qui n'habitent pas dans notre quartier, on ne fait pas suivi médical et social. Bien sûr, s'il y a des patients qui viennent, des situations un peu pas trop bien, si on les déplace, bien sûr qu'on le voit, mais on ne fait pas une suivi en fait. Parce que pour nous aussi, c'est super difficile.
Une fois que les patients sont venus, est-ce qu'ils reviennent spontanément pour proposer leur participation?
Alors là, je vais vous raconter comment on s'est planté au début, effectivement, parce qu'en fait, on a été financé pour du collectif, par l'ARS, pour faire des ateliers. Et puis, en fait, nous, on a pensé à un moment que ce serait bien de faire un groupe sur ci, un groupe sur ça. Et en fait, quand ça vient de nous, ça ne marche pas. Donc, en fait, il faut qu'on a dû mettre du temps. Et je pense aussi qu'il fallait qu'on fasse ce qu'on savait faire, c'est-à-dire faire notre métier de soignant, d'accueillant, de médiateur, de traducteur, pour que les gens y voient qu'on était aussi là pour leur filer un coup de main quand ils avaient besoin. Et après, du coup, eux, ils viennent spontanément en proposant, par exemple, le groupe de marche. Ça a complètement émergé des habitants et c'est pour ça que ça marche aussi bien. Il y a souvent des fois où ils viennent, ils disent « Ah, mais là, il faut absolument qu'on fasse un repas parce qu'il y a un événement important dans le quartier. Est-ce qu'on peut faire un repas tous ensemble dans la cuisine du château ?» Dans ces cas-là, en fait, ça marche. Là, on a intégré récemment 4 personnes dans le CA, 3 personnes qui sont vraiment issues du quartier. Il y a une maman d'un jeune garçon handicapé que les orthophonistes suivent. Il y a un patient aussi qu'on suit. Il y a pas mal de... Et du coup, on commence petit à petit. Mais c'est sûr que c'est jamais gagné d'avance. Et en fait, il faut aussi que nous, on ait la disponibilité d'esprit. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas se revendiquer centre de santé communautaire. En fait, on essaie d'être dans une dynamique toujours renouvelé de communautaire. On a pris un sacré coup avec le Covid parce que le collectif a été complètement arrêté d'un coup. Et là, on repart un petit peu doucement.
Il y a 2 questions qui se regroupent un petit peu autour du futur et je les synthétiserai de la sorte. Dans un avenir idéal, comment voyez-vous l'évolution de votre structure d'ici 5 ans ?
Alors, du coup, ça me donne l'occasion de parler un peu des 2 expérimentations dans lesquelles on est. En fait, cette structure, elle est aussi... Enfin, en tout cas, ce qu'on partage tous, c'est l'idée de sortir un petit peu du paiement à l'acte. On est d'accord, en fait, pour dire que, finalement, les gens, on les soigne autant en allant marcher dans la colline 2 heures qu'en faisant des consultations. Et du coup, en sortant du paiement vraiment à l'acte, on peut inventer plein d'autres choses, en fait. Et notamment, plus prendre en compte les déterminants de santé. Et du coup, là, il y a une expérimentation en fait, qui nous propose, qui s'appelle PEPS, qui fait que maintenant, on ne passe plus la carte vitale, on est rémunéré au forfait. Et du coup, en fonction de la pathologie des gens, à partir du moment où ils s'inscrivent chez nous à l'année, on gagne de l'argent pour s'occuper d'eux pour l'année. Et on s'en fiche du nombre de fois ils vont venir nous voir. Nous, qu'est-ce que ça nous permet ? Ça nous permet, au lieu de faire une consulte tous les 2 mois pour renouveler une ordonnance, de faire une consulte de 1 heure pour former la personne sur sa maladie, le diabète qu'on vient de diagnostiquer, par exemple. Et si on prend ce temps-là, pendant 1 heure, et que ça ne nous fait pas perdre d'argent, parce qu'on ne va pas gagner que 25 euros en 1 heure, vu que de toute façon, on est payé à l'année pour s'occuper de lui, on voit complètement différemment notre manière de fonctionner. Ça, c'est sur la partie des actes médicaux. Et l'autre expérimentation dans laquelle on est, ça s'appelle SECPA, Structure d'exercice coordonné participatif. Ça, c'est lancé par l'État. Et en fait, ils disent, dans des lieux comme le vôtre, pour que vous soyez viable, parce que jusqu'à maintenant, on n'est pas viable, en fait. Jusqu'à maintenant, tous les ans, on passe un temps démesuré à chercher des financements sur du projet. Donc, on doit inventer tous les ans des nouveaux projets, alors qu'en fait, moi, mon projet, c'est juste de soigner le mieux possible les gens. Donc, on invente, mais en fait, ça ne marche pas trop. Et puis, d'une année à l'autre, on ne sait vraiment pas comment on va fonctionner. Depuis cette année, on est dans cette expérimentation qui dit « Il faut que vous soyez viable. Les centres de santé qui décident d'ouvrir dans ces lieux-là, ce n'est pas possible que vous fermiez. » Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'en fonction du nombre de patients médecins traitants que vous avez, on va vous financer un certain nombre de postes à partir du moment où vous répondez à certains critères. Les critères, c'est proposer de l'interprétariat systématiquement aux patients qui en ont besoin, proposer un suivi psychologique, proposer de la médiation en santé et...
Médiation, psy, interprète.
Si on a ces critères-là, on a un certain nombre de postes qui sont financés de manière pérenne au fonctionnement. On n'est plus dans du paiement au forfait, au projet. Et du coup, nous, ça nous pérennise. Donc là, on est assez positif sur l'avenir du lieu. Je pense que dans 5 ans, on aimerait être encore plus dans le communautaire et plus dans le participatif. Et on aimerait déjà être encore là et continuer à être financé comme on l'est et continuer à être soutenu parce que c'est vrai qu'on est extrêmement soutenu, vraiment, l'ARS, le conseil régional, le département, tout le monde, pour l'instant, on a plutôt bonne presse par rapport à d'autres associations du territoire. Enfin, on est plus soutenu, mais j'espère qu'il y en a d'autres assos qui seront bien soutenus, notamment les centres sociaux qui entourent le quartier, qui vont très très mal et qui rendent les gens... En fait, ça rend malade les gens quand un centre social ferme. Et ça, c'est compliqué à faire entendre, en fait, aux institutions. Voilà.
Oui, ça s'entend très bien, surtout suite à l'explication tout à l'heure qui est on soigne les gens, non pas à coups de médicaments, mais en les faisant aussi marcher dans les montagnes et en les faisant parler. Merci beaucoup à tous les deux pour cette belle présentation. Je laisse le mot de la fin à Jacques Roméo.
Avec beaucoup d'humilité, je voudrais dire merci à nos trois intervenants. Ils ont conjugué le verbe donner ce soir, don d'organes, don de soi, aller vers l'autre, partager, expliquer, comprendre, aider, lutter contre les inégalités, agir ensemble, enfin, respecter la vie de tous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.